Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h46, le petit déjeuner politique dans un instant avec nos éditorialistes du jour, Thierry Guerrier, Éric Revel, vos appels 0800 26 300 300, et on fera un point aussi avec Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. En attendant, c'est Benjamin Glaise avec la revue de presse.
Oui, dans la revue de presse ce matin, ce titre par exemple, tiens, dans Midi Libre, la patronne.
Bah oui, au sujet de Carole Delga, la présidente de région la mieux réélue de France, presque 58% pour la présidente PS sortante d'Occitanie devant Jean-Paul Garot du RN à 24% et Aurélien Pradier pour les LR à 18%, d'où le titre choisi par la Dépêche du Midi, le triomphe de Carole Delga. Autre présidente de région bien réélue en Nouvelle-Aquitaine, cette fois-ci c'est Alain Rousset. Rousset dans un fauteuil, c'est à la une de La Montagne, notamment dans son édition de La Creuse. On y revient dans un instant avec Laurie Bautcher de Sud-Ouest qui titre aussi sur ses régionales en Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, c'était bien la soirée des sortants, retient La République des Pyrénées en titre, avec un titre qui pourrait effectivement s'appliquer aussi à d'autres, à Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes, à Valérie Pécresse en Ile-de-France ou encore à Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France.
Oui, c'est ça. Alors le Parisien aujourd'hui en France fait sa une sur l'échec du Rassemblement National, et le Figaro évoque, Benjamin, une double sanction.
Hein. Bah oui, sanction d'une part pour Marine Le Pen, puisqu'aucune région pour le Rassemblement National, mais aucune région non plus pour La République En Marche, donc double sanction d'une part pour Marine Le Pen, d'autre part pour Emmanuel Macron, le Figaro, qui évoque un parti présidentiel carrément fautomatique et un RN qui a donc échoué notamment en PACA. Pour ce qui est de la Corse aussi, également pour ces élections, victoire absolue, note Corse Matin, au lendemain de ces élections territoriales, là-bas avec en photo le leader nationaliste sortant réélu, Gilles Simeoni, porté en triomphe par ses supporters au milieu d'une nuée de drapeaux frappés de la fameuse tête de mort.
Oui, et ce matin, allez, on va un peu partout en France, justement dans les régions, pour voir comment on a voté aussi. Nous sommes, avant d'aller dans le Sud-Ouest, nous sommes avec Patrice Maggio d'abord, directeur adjoint des rédactions de Nice Matin. Bonjour Patrice.
Bonjour, bonjour à tous.
Votre une ce matin, puisqu'il y a la victoire de Muselier face à Mariani.
Oh la main. Effectivement, c'est ce qu'on retient de cette victoire qui n'était pas du tout prévue et peut-être même pas prévisible vendredi encore, où les sondeurs les tenaient à touche-touche, à 50 oui. chacun. Là, il y a quand même 14 points d'écart, ce qui est absolument énorme.
Oui, oui, c'est ça. Et donc vous avez titré « Oh la main », alors, c'est ça.
Oui. C'est ouais, ça, avec ouais. une photo évidemment de Renaud Muselier tout sourire. Je pense que c'est un sourire de joie, mais aussi de soulagement.
Ouais. Oui, parce que c'était effectivement assez difficile. Et qu'on le rappelle, dans les intentions de vote il y a 10 jours, hein, Thierry Mariani a été donné vainqueur. Merci Patrice Maggio donc pour cette une de Nice Matin, à lire donc évidemment dans le journal, mais également sur numérique, bien sûr. Nous allons maintenant à Sud-Ouest avec Laurie Bautcher qui est avec nous, chef des infos à Sud-Ouest. Bonjour Laurie.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de Sud Radio.
Oui, en une de Sud-Ouest ce matin.
Alors nous, on a titré Rousset comme prévu. Oui. Et Alain Rousset, qui n'est pas trop connu nationalement, il va attaquer quand même son 5e mandat chez nous. Et ça, c'est historique aussi en France.
Oui, c'est vrai. Il a conservé, comme beaucoup d'autres, à droite ou à gauche, sa région. Alors qu'il y avait quand même beaucoup de candidats pour ce second tour. Hein.
Bien oui, on avait 5 candidats qui se sont maintenus. On était en quinquangulaire ce dimanche. Et donc le socialiste Rousset est arrivé avec 39,5% des voix. Donc il aura la majorité absolue. Et puis à côté, une opposition assez dispersée avec le RN qui est arrivé en deuxième position.
Oui, c'est ça. Devant aussi Darrieussecq, hein, puisqu'il y avait la majorité présidentielle et qui espérait, qui misait beaucoup sur Darrieussecq.
Hein. Ah ben oui, on a eu l'artillerie lourde, hein, comme on dit, hein, qui est descendu plusieurs fois, Castex, Parly, enfin ils sont quasiment tous venus pendant la campagne, et finalement elle finit petite dernière hein, de ces 5, ouais. avec un 13% des voix.
Oui, donc évidemment une défaite cinglante. Merci beaucoup, c'est à lire ce matin dans Sud-Ouest, et même chose sur la version numérique pour ceux qui ne sont pas dans la région. Merci Laurie Bautcher d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.
Et Frédéric Dabi est avec nous, un directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric.
Oui. Bonjour à tous.
Oui, avec Thierry Guerrier, Éric Revel également, et puis vos appels au 0826-300-300 pour commenter ces résultats des élections régionales et départementales. Un point, Frédéric, peut-être sur le grand vainqueur de ces régionales, c'est toujours l'abstention.
Oui, un triste vainqueur, Patrick, effectivement. Il n'y a pas eu, comme entre les deux tours des élections régionales de 2015, ou dans toute élection, un sursaut de participation. On a toujours un score jamais vu, hein. On est à 67,5, je crois, d'abstention. Les chiffres ne sont pas encore complètement figés, au moins 67. Et on a plus de 31 millions de Français qui ont été en exil électoral. Ça montre que cette campagne n'a jamais trouvé preneur d'intérêt, même si dans une enquête IFOP fiduciale pour LCI, nous avons un indicateur de participation à la présidentielle beaucoup plus fort.
Oui, c'est ça.
Seulement ouais. De 55%. La présidentielle, c'est dans 10 mois, c'est l'élection où les Français votent le plus, mais après un tel choc, après un tel traumatisme d'abstention, sans doute que il faudra que les politiques mobilisent fortement les Français pour retrouver la participation traditionnelle. En tout cas, c'est vrai, c'est le premier vainqueur de cette élection. Le deuxième étant, et on l'avait vu dès la semaine dernière, les sortants, puisque en France métropolitaine, il y a un grand chelem de sortants.
Oui, c'est ça. Ça a seulement basculé du côté de la Réunion, où c'est la gauche qui l'a emporté, d'un cheveu d'ailleurs. Hein. Ça a été extrêmement...
Ainsi qu'en Guyane.
Oui, absolument. Merci Frédéric Dabi, restez avec nous. C'est intéressant. Alors, il ne faut pas non plus, Thierry Guerrier et Éric Revel, peut-être faire trop... mettre tous ces résultats en perspective pour la présidentielle de 2022, parce qu'il y aura probablement un autre scénario qui va se dresser, quoi.
Ben, il est clair qu'avec 67% d'abstention, les bases d'un raisonnement précis, pointu, pertinent, sont tout de même très très floues. Ouais. Voilà, c'est très difficile d'imaginer. Même si l'abstention a été à peu près, Frédéric peut nous le confirmer peut-être, à peu près de même nature dans tous les camps.
Ça c'est vrai, oui, ça a concerné tout le monde parce que chacun dit, et notamment j'ai entendu ce discours au Rassemblement National, où on dit, oui mais c'est à cause de l'abstention qu'on ne s'est pas imposé, Frédéric.
Oui. C'est vrai que l'abstention a touché de plein fouet l'électorat du Rassemblement
national. Oui, mais est-ce que ça a plus touché l'électorat du Rassemblement national que les autres ?
Ah oui, ça a clairement plus touché. Alors, dans notre sondage IFOP fiduciale pour Sud Radio de jour du vote, on voyait très bien que les camps politiques les plus touchés par l'abstention étaient l'électorat Mélenchon 2017 et surtout l'électorat Le Pen. Mais là, vous avez raison, quand on a une abstention si forte qui dépasse 66%, le glas de l'abstention, si je puis dire, sonne pour tout le monde. On avait eu, par exemple, 70% d'électeurs Macron 2017. Mais quand même, quand on voit la structure des soutiens du Rassemblement national et la structure de l'abstention, elles sont assez conformes, mais c'était aussi un échec de Marine Le Pen qui a voulu mobiliser de manière parfois un peu martiale son camp entre les deux tours. Clairement, elle a échoué, ça se comprend. À part en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le RN n'était nulle part en mesure de l'emporter, ça n'a pas non plus aidé à la mobilisation.
Mais quelle est la part de pertinence de nos analyses avec 67% d'abstention ? Est-ce qu'on peut quand même arriver à tirer des enseignements un peu pertinents du vote lui-même, de ceux qui ont choisi ?
Votre remarque tirée est tout à fait pertinente. Le premier chiffre, on l'a beaucoup dit, c'est cette abstention. C'est ce cycle électoral terrible qui fait que depuis 2017, jamais une majorité de Français ne s'est déplacée aux urnes. Cela dit, des Français ont voté, beaucoup de Français malgré tout, et ce qui me frappe, c'est l'heure exactement comme aux élections municipales. Hein. On avait parlé sur cette antenne d'une municipalisation des élections régionales, de motivation de vote qui reposait sur le bilan, le projet et l'incarnation, et tout ça a grandement favorisé les sortants, y compris ceux qui paraissaient en danger dans les enquêtes d'opinion, Bourgogne-Franche-Comté et dans le centre Val-de-Loire.
Oui, c'est vrai. Alors d'ailleurs, ça inspire un auditeur sur les réseaux sociaux, dans un autre sondage, qui dit « Aucune conclusion valable avec une telle abstention, mais si on se fie aux résultats sortants, les sortants réélus, Macron sera réélu. » Est-ce que, Éric Revel, vous pensez que ça peut changer la donne ou que non, il y a une forme de prime au sortant et que ça peut aussi d'ailleurs fonctionner pour la présidentielle.
Non, je pense que les élections sont totalement déconnectées. Non, je dirais, il faut être prudent, vous avez raison Patrick, avant de dire que les cartes sont rebattues politiquement et notamment pour la présidentielle, je dirais que ce qui s'est passé hier avec le fiasco démocratique de la forte abstention, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Elle était nécessaire notamment pour les Républicains pour se relancer. Elle était nécessaire aussi pour la gauche qui maintient ses positions dans 5 régions. Maintenant, on voit bien que les Républicains sont plus en ordre de bataille, même s'ils ont 3 personnalités et qu'ils peuvent à droite remettre la machine à perdre, qu'à gauche où les choses se clarifient, mais négativement. C'est-à-dire que l'un des grands perdants, c'est quand même aussi Jean-Luc Mélenchon de ces régionales. Anne Hidalgo a envie de se lancer, mais elle est quand même créditée de peu d'intention de vote pour l'instant. Donc je dirais que voilà, c'était une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc prudence après ce deuxième tour régional. Et puis, petit point quand même, parce que il y a une page très importante de l'histoire politique de ce pays qui vient d'être tournée, Frédéric le sait, c'est que le Parti communiste a perdu son dernier département,
le Val-de-Marne.
Qui était le Val-de-Marne. Le Parti communiste ne dirige plus aucun département en France. Et c'est évidemment symptomatique dans un département où il y avait la ville de Champigny, qui était celle de Georges Marchais, on s'en souvient. Donc, les communistes rayés de la carte des départements, c'est aussi, Frédéric, me semble-t-il, une histoire, une page de l'histoire politique française qui se tourne sans doute définitivement.
Oui, c'est vrai. Depuis 1976, il était détenu. La parole aux auditeurs également, 0826-300-300 pour terminer juste avant 9h et puis continuer. C'est qui est en ligne avec nous?
C'est Renaud qui nous appelle de Rodez. Bonjour Renaud.
Oui, bonjour Renaud.
Oui, bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Honnêtement, moi je pense que les régionales et les départementales ne donneront pas grand-chose par rapport au présidentiel à venir, très honnêtement. J'ai voté au premier tour, je ne suis carrément pas allé voter moi au deuxième tour, très honnêtement. Parce que quand je vois tout ça, je commence en fait, comme beaucoup de Français, à en avoir un petit peu ras-le-bol. Et effectivement, 66% d'abstention, ça montre bien qu'en fait, La République En Marche, et plus particulièrement Macron, en fait, c'est clairement un dégagisme, même si...
Vous avez l'impression que cette abstention, c'est un peu contre Emmanuel Macron qui est au pouvoir, quoi.
Honnêtement, oui, clairement. Même s'ils ont réussi à gagner quelques sièges localement, et tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, mais la politique menée sur 5 ans, plus la manière dont le Covid a été géré et tout ça, ça prouve bien que les Français en ont marre. Ouais. Et clairement, moi, je pense que ça donne clairement raison aux Gilets jaunes auxquels j'ai fait partie.
D'accord. Non, mais c'est intéressant comme raisonnement, évidemment. Ça montre aussi qu'il y a énormément de critères qui ont compté dans cette élection et dans cette abstention record. Merci Thierry Guerrier, Éric Revel, Frédéric Dabi et aux auditeurs 0826-300-300. On va continuer dans un instant et on sera en ligne notamment aussi avec Carole Delga, qui a été réélue et présidente socialiste et la tête de liste la mieux réélue de France à cette occasion aussi.
Et juste après, on parlera des éoliennes avec le porte-parole du réseau Ulysse qui a écrit un livre « Éoliennes, la face noire de la transition écologique ». On revient dans un instant, c'est le Grand Matin Sud Radio, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et ce matin, nous sommes en direct avec Carole Delga, la présidente PS de la région Occitanie, élue hier.
Oui, bonjour Carole Delga.
Bonjour.
Tête de liste la mieux élue, réélue donc de ces régionales avec ce score de 57,8%. Je ne sais pas s'il est précis. Et 23,9 pour Jean-Paul Garot et 18,3 pour Aurélien Pradier. C'était les chiffres qu'on avait tout à l'heure. Que signifie pour vous cette victoire, Carole Delga?
C'est un élan très fort qui nous est donné pour continuer les fondations de ce que nous avons posé sur ce premier mandat, c'est-à-dire pouvoir concilier et l'économie, la création d'emplois et bien sûr l'écologie, que ce soit la rénovation énergétique, que ce soit les transports en commun, la biodiversité. Et puis également, c'est une confirmation de la pratique politique que nous avons mis en œuvre en Occitanie avec une grande honnêteté, avec une grande sincérité, avec une droiture et une fidélité, une clarté dans nos engagements.
Oui, on va en reparler dans un instant, notamment sur l'union de la gauche, mais Qu'est-ce que vous répliquez à La République En Marche, aux marcheurs, qui disent ce matin « il faut relativiser avec cette forte abstention ».
Oui, mais ça, c'est toujours les arguments des perdants qui ne sont pas lucides. La réalité, c'est que, bien entendu, il y a une forte abstention. Ça devrait d'ailleurs interroger La République En Marche sur sa pratique politique depuis maintenant 4 ans. Mais pour autant, il y a deux grands perdants et l'extrême droite et La République En Marche qui a démontré qu'elle n'avait aucune implantation territoriale.
Oui, et l'ancien monde n'est pas enterré, quoi, aussi. Quand on voit finalement le résultat de ces élections avec 7 pour la droite, 6 pour la gauche avec la Réunion où vous avez tous conservé vos postes, quasiment donc, à l'exception de la Réunion où ça a basculé, c'est l'ancien monde qui est toujours là, quoi, aussi face à un monde qu'on a voulu effacer par La République En Marche il y a 5 ans.
La République En Marche a qualifié cela d'ancien monde de façon très méprisante, très arrogante. Et bien la démonstration, c'est que le monde du réel y gagne. Voilà, je ne considère pas que les présidents qui ont été élus hier soir, de droite comme de gauche, ça soit l'ancien monde. C'est la politique connectée au réel, c'est celle qui a les deux pieds sur terre, les mains dans le cambouis. Oui, et c'est parce que nous faisons, nous agissons, que nous sommes reconnus.
Oui. Pour la gauche, Carole Delga, quel est le chemin à emprunter? C'est ce que vous avez voulu montrer, vous, en région Occitanie, c'est-à-dire pas forcément d'obligation de passer des accords avec la France insoumise ou les écologistes?
Alors, tout d'abord, une précision. L'Occitanie en commun, c'est une liste d'union de la gauche écologiste et citoyenne. C'est l'union entre des citoyennes. Tout d'abord, j'avais un tiers de société civile, de partis socialistes, partis communistes, partis radicaux de gauche, de Occitanie écologie, parce que de nombreux élus d'Europe écologie Les Verts ont décidé de quitter leur parti en début d'année et de continuer à me suivre. Donc, c'est cette union.
Non, mais c'est ça. Vous aviez fait main basse sur des écologistes, si je puis dire, et le parti, en revanche, n'était pas forcément derrière, quoi, le parti des écolos. Hein.
Mais ça démontre voilà, la déconnexion entre des décisions parisiennes et la réalité de l'action politique sur le terrain. Si José Bové m'a soutenu et était également symboliquement dernier de la liste de l'Aveyron, c'est que la politique mise en œuvre en Occitanie, elle était bien dans cette transition écologique et énergétique qui est nécessaire. Donc la leçon qui nous est donnée, que cette gauche du réel, cette gauche réformiste, elle doit s'affirmer, elle doit rassembler, mais on doit avoir une clarté dans la défense de la République, dans la lutte contre les communautarismes, dans la défense de la laïcité, dans la reconnaissance du travail, de l'apport des entreprises, du traitement aussi du sujet lié à la sécurité. Il ne doit pas y avoir de tabou, il ne doit pas y avoir de renoncement et on doit agir aussi pour l'accès à l'éducation, à la culture pour tous, quel que soit le milieu social, c'est fondamental. Et puis la création de richesses, elle se fait avec les entreprises, avec les associations. Et ensuite, c'est une juste répartition des richesses que nous défendons.
Oui, Carole Delga, avec cette réélection dans un fauteuil, si je puis dire, vous êtes, pardon de le dire, mais maintenant un poids lourd au sein du PS. Est-ce que vous voulez compter au niveau national en vue de la présidentielle et au sein donc du Parti Socialiste?
Moi, je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire à travailler à partir des besoins de nos concitoyens et nous allons bâtir un nouveau projet de société, que ce soit avec des maires de cette gauche du réel, comme le maire de Montpellier, la maire de Nantes, le maire de Nancy, avec bien sûr aussi Anne Hidalgo. Mais l'heure est au travail, au projet, apporter des solutions à nos concitoyens pour leur quotidien, pour également faire que la France retrouve de la souveraineté, souveraineté industrielle, souveraineté sanitaire, énergétique ou alimentaire. Oui. C'est cela le boulot des prochaines semaines et certainement pas de discuter qui doit être le tête de liste.
Ouais, mais quand même, la présidentielle, c'est dans moins d'un an et le Parti Socialiste a besoin de relever la tête. Vous allez y participer, vous avez cité Anne Hidalgo, c'est pas un hasard, quoi.
Non, ce n'est pas un hasard, parce qu'elle a les capacités de pouvoir nous représenter, mais il faut être très lucide sur le message qui nous a été envoyé par nos concitoyens. Ce qu'ils veulent, c'est avoir du sens, c'est avoir une direction, c'est comprendre quel est le projet que l'on peut amener. Et cela, c'est indispensable. Et si nous ne travaillons pas sur le fond, si nous ne sommes pas dans la France du fer, la France des solutions, à ce moment-là, de nouveau, il y aura des déconvenues. Et moi, je ne me résous pas à ce que la France soit dans un phénomène de confusion, de reniement ou d'extrémisme.
Oui,
moi,
ça.
Je suis pour la grandeur de la France
les valeurs.
La France quand elle est généreuse.
Oui, quelles valeurs de la République vous voulez défendre, Carole Delga, à travers votre élection et demain, quoi. C'est ce qui est défendu par certains gauches, mais pas tous, hein. L'universalisme, bien sûr, ces valeurs républicaines et laïques.
Mais bien sûr, c'est l'universalisme, c'est la laïcité, c'est la liberté d'expression. C'est rappeler qu'en France, la loi est au-dessus de la foi. Je respecte toutes les religions. Il n'y a de ma part aucune stigmatisation sur aucune religion. Mais les religions, elles relèvent de la sphère privée. Elles n'ont pas vraiment à intervenir dans la sphère publique et encore moins dans les décisions politiques. C'est cette laïcité affirmée. C'est également des réponses sans aucun dogmatisme, sans aucun tabou sur la lutte contre les communautarismes, sur la lutte contre l'insécurité. Moi, j'aime l'entreprise parce que j'aime et les salariés et les chefs d'entreprise. C'est cette capacité d'action que nous devons démontrer à nos concitoyens pour qu'ils retrouvent confiance et dans les élus et dans le vote que nous devons compléter également par des dispositifs de démocratie participative comme nous l'avons fait sur la région Occitanie à travers l'association des citoyens sur le choix du nom de la région, sur des choix en termes de politique sur l'alimentation ou sur le rail par exemple.
Oui. Merci beaucoup Carole Delga d'avoir répondu à nos questions ce matin juste après donc, votre réélection à la tête de la région Occitanie. Merci au passage aussi à Christine Bouillot qui a permis d'assurer cette liaison avec vous. Merci.
Merci beaucoup Eric Revel et merci beaucoup à vous tous, Elisabeth Lévy et puis
Thierry Guerrier qui était avec nous aussi dans le petit déjeuner de l'actualité et vos appels au 0826 300 300 et
avec à propos un gagnant,
voilà c'est ça
Stéphane qui est avec nous et qui nous appelle de l'Ariège, bonjour Stéphane.
Oui bonjour, bonjour à toute l'équipe.
Alors
Stéphane alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vous fait gagner ou on vous fait pas gagner?
Écoutez, a priori, j'ai répondu 11, donc a priori, je...
Ah, c'est pas a priori, allez, je vous le dis. Allez, oui, vous avez gagné 4 passes pour aller au Parc Spirou à côté d'Avignon. Vous allez partir, bien sûr, avec, j'imagine, votre petite famille ou des amis. Vous faites quoi dans la vie, Stéphane?
Ah, moi, je suis consultant immobilier pour l'agence Efficity.
Ah, bah d'accord. Ça doit cartonner, là, en ce moment.
C'est pas mal. Honnêtement, ça fonctionne.
Ah, bah très bien.
Vous êtes où, précisément?
Alors, c'est dans le sud de Toulouse, 60 km dans le sud de Toulouse.
Ouais.
Et pour les gens qui sont un peu plus pointus au niveau truc, c'est pas loin du Pas de la Case, sur
le sol. Ah, bah oui, évidemment. Bien sûr. Dans l'Ariège. Du coup, vous êtes.
Absolument.
En Ariège.
Absolument.
Bien sûr, on connaît parfaitement avec Cécile toutes ces routes, on les a sillonnées, on adore.
À pied, à cheval, à vélo, on a tout fait.
D'accord.
Et vous nous écoutez depuis longtemps?
Oh, bah écoutez, alors en même temps, si on vient dans le coin, on écoute Sud Radio, ça semble logique, et depuis quand même quelques paires d'années, oui.
Ah, oh là là, oui, d'accord. Bah, merci
c'est
en tout cas.
Au niveau, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie sport et une partie politique, voilà, ça change un petit peu d'autres radios plus conventionnelles.
Oui, absolument.
Eh bien, merci en tout cas de nous écouter, et bravo pour ce beau cadeau.
Merci
le Parc Spirou pour 4 personnes, on vous embrasse très fort.
Merci à vous aussi.
Dans un instant, un livre qui remet en question la transition écologique par le projet Éolien. On sera avec Fabien Bouglet, qui est porte-parole du réseau Ulysse pour ce livre, Éolienne, la face noire de la transition écologique. À tout de suite.